Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Troisième rendez-vous de cette série exceptionnelle à Lourmarin, enregistrée au mois de juillet en plein cœur du Festival des Arts de la Parole sur la terrasse de l'Hôtel du Moulin. Un projet qui est né d'un lieu, d'un instant, d'une promesse, celle que la parole, quand elle est juste, vivante et partagée, peut ouvrir un monde. Artistes, penseurs, comédiens, musiciens, théologiens, élus ou bénévoles, toutes et tous sont venus nous parler simplement à voix nue. Nous continuons donc ce matin avec quelques autres morceaux choisis de ces rencontres, en public, le temps d'un café, un espace de rencontre où les mots prennent leur temps et leur sens. Rencontre ce matin proposée avec un artiste marseillais, slameur, poète, éducateur, c'est Naïm Zriouel. Nous parlerons aussi de la nouvelle pièce musicale et théâtrale de la compagnie SketchUp. Mais pour commencer, c'est un dialogue original, intéressant, entre le maire de Lourmarin, Jean-Pierre Pétavino, et Gilles Caminchet, directeur de la fondation protestante Flamme. Bonjour Jean-Pierre Pétavino, bonjour Gilles Caminchet.
Bonjour.
Café aujourd'hui entre parole publique et parole engagée avec vous deux, Jean-Pierre Pétavino, maire de la commune de Lourmarin. Vous accueillez depuis plusieurs années maintenant ce festival des arts de la parole dans votre village. Et puis avec vous, Gilles Caminchet, la fondation Flamme, dont vous êtes le directeur, qui accompagne cet événement dans une volonté de faire résonner foi et société. Cette rencontre est donc aussi celle d'un croisement fécond entre la culture municipale, la spiritualité protestante et le service du vivre ensemble. Alors parlons ensemble justement de ce lien rare mais précieux. Et je voudrais commencer avec vous, monsieur le maire. Qu'est-ce que ce festival représente pour vous en tant que maire d'une commune comme Lourmarin ?
Ça représente beaucoup de choses en fait. Premièrement, on a créé avec ce festival toute une animation autour du temple. Notre village bénéficie d'un temple remarquable, de grande capacité. Et donc, je pense qu'il était important de l'ouvrir au plus grand nombre, bien entendu aux Lourmarinoises et aux Lourmarinois, mais pas que, et aux gens de toute obédience, de tous bords. Ça permet donc des échanges, ça permet toute une animation pendant une dizaine de jours sur la commune, mais une animation qui est tout à fait adaptée à la taille de notre commune.
Oui.
Et ce qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, j'ai eu l'occasion de le dire maintes et maintes fois, c'est puisqu'on est à la cinquième édition,
oui,
c'est que ce festival dure dans le temps. Mmh. Et donc ça veut dire que pour celles et ceux qui en entendent parler, pour celles et ceux qui sont attentifs à cette programmation, aux gens qui passent à Lourmarin, aux différents artistes, ça soit un rendez-vous du mois de juillet.
Gilles Caminchet, la Fondation Flamme, elle, soutient des projets qui relient foi et société. Alors pourquoi ce partenariat avec le Festival des Arts de la Parole vous paraît-il essentiel ?
Ici, nous avons vu des églises locales qui ne savaient pas que c'était impossible à organiser et donc ils l'ont fait. J'en dirais autant de la municipalité parce que là, il y a eu vraiment un engagement de personnes, d'équipes, de l'équipe municipale qui ont vraiment énormément donné en temps, en énergie, en amour. Et puis une église qui a dit, sortons de nos murs, allons vers ce qui n'est pas nous-mêmes, laissons-nous aussi entamer, suscitons cette rencontre, qui est une rencontre avec les œuvres, avec les artistes, avec les interprètes, et puis aussi de là une rencontre entre spectateurs. On voit toute cette richesse d'échanges qui se crée, qui commence en général d'ailleurs par ce qu'on appelle le bord de scène, hein, échange entre l'interprète, les interprètes et puis le public. Mais cet échange, il se poursuit dans tous les lieux où on peut se trouver, à Lourmarin, dans les terrasses des cafés comme ici.
Et oui, on se croise, et puis on s'est vu au spectacle, on se recroise après
On se retrouve, et alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais. Et puis on n'est pas tout à fait du même avis, on partage sur nos subjectivités, c'est essentiel la subjectivité, c'est ce qui nous rend sujet. Absolument. Puis on se dit, tiens, ce petit rosé n'est pas mal du tout. Voilà. C'est aussi cette convivialité provençale.
Ça peut apporter
provençale.
Aussi quelque chose.
Voilà. Et dans la conviction, puisque nous accompagnons en effet des projets qui visent au témoignage de l'Évangile, dans le monde et auprès de tout public, avec cette conviction que c'est la rencontre de Dieu qui commence avec la rencontre de l'autre, et que c'est dans cet échange, dans ce lien entre les personnes, que, que Dieu est présent, en somme.
Quand on évoque l'idée de sortir hors les murs l'Église, qu'elle puisse rejoindre la cité, on n'est pas là forcément pour chercher à convertir, mais plutôt de dialoguer, d'habiter, d'interroger, de faire tout ce que vous venez d'évoquer, créer des passerelles, se retrouver ensemble. C'est aussi ça, cette mission portée par Flamme et encouragée ici à Lourmarin par vous, monsieur le maire.
Oui, mais pas que par moi, puisque c'est bien ce qu'a exprimé notre pasteur dans la séance d'ouverture, oui. C'est qu'effectivement, on n'est pas là pour juste sortir du temple et faire juste de la promotion,
voilà, c'est ça.
Pour notre, ouais. Notre église. Donc, et ça, je crois que les gens l'ont bien perçu.
Oui, ce sont les œuvres elles-mêmes qui souvent nous amènent à une interrogation sur l'existence. Quand on a vu le premier soir la lecture de Jean Giono, Que ma joie demeure, magnifique. Par Robin Renucci, c'était magnifique. Et c'était une interrogation sur l'existence, à partir de la vie, à partir du soleil, du lien. Et puis aussi la lecture de Hannah Arendt, avant-hier, par Bérangère Varluzel, qui était mise en scène par Charles Berling. Et là, c'était aussi une interrogation sur l'existence, mais partant d'ailleurs, à partir de la mort, à partir du drame, à partir du collectif, et non plus de l'individuel. Et de là, chacun repart, quoi, nourri d'une certaine façon, interpellé, en se laissant déplacer. Et ce déplacement, quand on le partage, quand on le vit en commun, ben, il nous fait tous certainement grandir. Et si on se dit il y a un rôle de témoignage de l'Église, ben, c'est peut-être plus... après tout, c'est Dieu qui bosse, quoi. Hein.
Merci. Merci.
Bonjour Naïm.
Bonjour.
Vous êtes poète, slameur, auteur, performeur et avec Vertige, le concert que vous avez donné ici à Lourmarin au Festival des Arts de la Parole, vous interrogez les mots, l'âme, revisitez votre histoire, votre parcours de vie avec des moments plein d'émotions d'ailleurs. Vous êtes aussi l'animateur d'un projet qui s'appelle Mémoire en devoir avec des jeunes de Marseille dont nous parlerons également dans cet entretien. Revenons sur ce titre, Vertige, qui évoque un ressenti intense évidemment. Qu'est-ce que ça révèle ce vertige pour vous ?
Comme on est à Lourmarin, je me sens obligé de parler d'Albert Camus et de son travail sur l'absurdité. Depuis tout petit, je me sens perdu dans ce monde. Ouais. Je dis dans un de mes textes que je me sens comme un papou qu'on aurait téléporté dans un Apple Store.
Il y a un vrai décalage.
Exactement. Non, quand j'observe la violence, la bêtise, les absurdités, ouais. Le pouvoir, les dominations, je ressens un grand vertige. Et ce vertige-là est né pendant le confinement. Je distribuais avec l'association dans laquelle je travaillais des colis alimentaires dans les quartiers de Marseille. Et il y avait des problèmes de malnutrition dans les familles. C'était terrible. Il y avait des problèmes. Et en rentrant chez moi le soir, j'ai eu besoin d'écrire le premier texte de mon EP qui s'appelait Vertige et qui parle d'un anthropologue extraterrestre venu étudier les humains. Il ressent le même vertige que cet Albert Camus de l'absurdité de Sisyphe.
On va en écouter un extrait.
Je regarde chaque jour le monde avec les yeux d'un nouveau-né. J'ai l'impression de rien comprendre de ce qui se passe sous mon nez. Les gens se comportent comme si tout était normal. Je suis remué, je me sens comme goéland dans la tornade. Quel est ce monde, où va-t-on? Qu'a dit Socrate à Platon? Que pensent les moutons bénis? Les bergers se battent au bâton. Comment font-ils pour vivre heureux sans se poser de questions? L'absurdité de l'existence pèse sur mes épaules. Déréglée, ma boussole n'indique aucune direction. Trop d'idoles, trop d'icônes, trop d'angles dans mon polygone. Je vis le dilemme d'Antigone. Je plaide face à Créon, je dessine l'émoticône triste avec mon crayon. Moi j'ai compris pourquoi le Christ avait pardonné aux hommes. Leurs offenses étaient sont le fruit de leurs illusions. Je suis Sisyphe sur la colline de l'infini vide astral, poussant mon rocher, je médite sur le Paris de Pascal. Et bien que viennent les veines diluviennes, pluie pour abreuver les puits, remplis de science, mais aux consciences si épuisées depuis que l'homme s'aime plus qu'il n'aime. Ses enfants légataires fuient en avant, détruisant les doux fruits de la terre, délétères, courir, mourir, pourrir, 10 pieds sous la terre. Est-ce pourrir, dieu cynique, démon, les deux font la paire, les deux font la guerre, un genou à terre. Que choisir, jouir à tout prix ou l'enfer? Les deux font l'affaire des vendeurs d'histoire. La grandeur des menteurs n'est de candeur d'espoir. Se nourrissant des grandes peurs du soir face à l'immensité du cosmos, la vacuité du soi et l'infinité des espaces noirs. donner un sens à la vie. Mais est-ce que la vie a réellement besoin qu'on lui donne un sens? Profond silence en réponse à mes questions sur l'existence laisse un grand vide. Looping dans le grand 8, chaque jour je me demande qui je suis.
Vous fusionnez en quelque sorte poésie, philosophie, rap, avec une très grande attention à la langue française. Il y a un titre en particulier qui s'appelle « Les mots » où vous évoquez le dictionnaire de votre enfance. Comment justement vous choisissez vos mots et votre rythme et mettez tout ça l'un avec l'autre ?
Vous me demandez ma sauce secrète.
C'est ça, on a envie de savoir.
Déjà, j'aime bien dire que j'ai déjà une forme de trouble autistique sur les mots, où je fais constamment des jeux de mots, des anagrammes dans mon esprit, hein, parce que si je libérais tous les jeux de mots qui me viennent, ça serait terrible pour mes amis. Ah oui. Donc déjà, il y a une démarche personnelle subie de jouer avec les mots. Quand je compose, je parle vraiment de l'écriture. Quand je compose, je fais énormément attention à la sonorité des mots et je fais des choix de mots qui parle le moins possible à l'intellect, le plus possible au sens, au corps. Et pour moi, c'est aussi l'essence de la poésie. C'est trouver le bon mot, le mot juste, pour que la personne en face ressente une émotion, une sensation, avant de penser à ce que ce mot signifie réellement.
Dans mon univers, il n'y a guère de mots en l'air. J'aime tous les mots, même les mots les plus grotesques. Quand j'étais môme, un jour mon père m'a offert un vieux dictionnaire. J'ai découvert le mot abracadabrantesque. Ce mot résonne encore dans mon esprit comme si j'avais marché sur la lune. Comme tous les mots qui ont rimé par la magie de ma plume. Des mots comme des lueurs de phare qui m'ont sorti de la brume. Les mots d'amour qui, je crois, ont fait de moi un homme. Poème connu ou anonyme, orné de rimes et homonymes. Des chansons faisant jouer des mots qui se ressemblent. Des consonnes et des voyelles qui s'embrassent et qui s'en mêlent, qui font s'accorder des mots qui vont très bien ensemble. Les mots d'amis, les mots de nour, les mots la nuit, les mots d'amour, des mots des fois absents qui savent trop bien se faire attendre. Des mots qu'il faut lire dans les yeux, des mots silencieux, des mots muets que seul un ami sourd pourrait entendre. Pour t'expliquer mon monde, j'ai pas les mots. Souvent c'est mes yeux qui disent je t'aime, c'est pas mes mots. Maman, j'ai eu honte quand j'ai connu l'ombre. Pour te demander pardon, maman, j'ai pas les mots. Face à la beauté du monde, tu sais, j'ai pas les mots. Ami, c'est mes gestes qui disent je t'aime, c'est pas mes mots. Quand je me replonge dans les mots qui me rongent, je voudrais crier, mais bon, des fois, j'ai pas les mots.
Vous avez aussi conduit un atelier d'éloquence, donc avec des ados du centre social de la Rouguière à Marseille, nommé Mémoires en devoir, restitué à la fruitière numérique pendant le Festival des Arts de la Parole.
Nos jeunes du centre social de la Rouguière sont partis à Auschwitz l'année dernière.
Sans doute grande expérience, j'imagine, pour des jeunes issus de différentes cultures. On est dans un quartier de Marseille.
C'est ça exactement ce que disent nos technocrates, que c'est un quartier prioritaire de la ville. Donc voilà, c'est un quartier difficile. Et nos jeunes, suite à différents débats au sein du centre social, ont décidé d'aller voir de leurs propres yeux. Ils y sont allés, ils ont vu, ils sont revenus. Ouais. Quand ils sont revenus, ils ont compris aussi l'importance de la mémoire, de se rappeler les choses qui se sont passées. Et on fait un petit écho avec, encore une fois, Albert Camus et l'absurdité. Ce que l'homme est capable de produire, parfois, est terrible. Et ils ont décidé et proposé d'aller à l'île de Gorée, l'île aux esclaves au Sénégal. Mais justement parce que ça leur parle aussi en termes de mémoire.
Ça rejoint des histoires personnelles sans doute.
Donc allez, on va à Gorée. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut qu'on trouve un budget. Le centre social qui est toujours bien sûr positif, qui a envie d'accompagner toutes les idées des jeunes, leur a dit bon, il va falloir qu'on collecte des fonds, qu'on monte des dossiers de subvention, etc.
Il faut travailler ce projet.
Et donc on a fait un partenariat avec le centre social, avec mon association et Petite Flamme et le Festival des Arts de la Parole pour créer un spectacle de toutes pièces avec ces jeunes. C'est simplement, très vite, l'idée m'est venue d'écrire ce que je voyais dans les débats avec les jeunes, leurs idées, leurs blagues, leurs envies pour collecter des fonds, etc. Et donc, on a décidé d'écrire une pièce qui s'appelait « Mémoires en devoir », dans laquelle on met en scène le centre social, le brainstorming des jeunes avec leur animateur.
On est au cœur du projet, en fait.
Exactement. Donc on a un peu de manière immersive amené à l'Ourmarin l'univers de leur centre social pour finir sur une scène finale avec des grands discours de personnages très importants dans l'histoire de la lutte contre la ségrégation et l'esclavage. Alors pour ne pas les citer, Nelson Mandela, Martin Luther King, voilà. Maya, la poétesse.
De grandes références et des textes qui font sens, mis en écho surtout de l'expérience de ces jeunes-là dans ce projet.
Et puis faire résonner ces grands textes dans la bouche d'adolescents de 12 à 16 ans.
Ouais, je pense
que, je ne sais pas si vous y étiez, mais en tout cas, les retours qu'on a eus dans la salle, c'est que ça vibrait.
Il y a des bribes de spiritualité parfois dans vos mots. Différentes religions peuvent être perçues, entendues.
Déjà, je suis métis, marocain, berbère, musulman, français, avec une lignée de protestants. Je le dis parce qu'en plus, on est dans la bonne émission.
Il y a du protestantisme là. Ouais.
Exactement. Mon arrière-grand-père était pasteur.
D'accord.
Je vous fais la confidence. Mon épouse est malaisienne chinoise. Bouddhiste taoïste.
Ah ouais.
Donc bon courage à ma fille pour trouver son identité. Hein. Nour, je t'embrasse. Ma fille s'appelle Nour, la lumière.
Voilà.
Donc ça, déjà pour vous dire, j'ai plutôt une tendance à être ouvert, heureusement.
Ouais,
sinon, ça serait compliqué. Et ensuite, deuxième élément, moi je suis très français, j'aime la France, j'aime mon pays profondément. Il y a un truc qui m'énerve en France, on a plutôt une tendance à casser le religieux de manière, de manière trop... Et moi j'aime tout le monde en fait, moi je me sens bien dans tous les milieux. Je trouve que la connerie est assez bien répartie, en général, hein, j'en
c'est
ai
vrai.
Trouvé chez tout le monde. Voilà. Et la bonté aussi,
ouais.
C'est fou, pour moi c'est formidable, au contraire, ouvrons-nous, partageons, qu'est-ce qu'on fait là, tous ensemble, et vous qui êtes en train d'écouter France Culture, on est tous assis sur un petit caillou perché dans l'univers infini, et on est tous en train d'essayer de se poser de temps en temps la question du pourquoi. Il y en a qui répondent à travers des textes, à travers des obédiences, à travers des croyances, à travers de la spiritualité, à travers la science. Bon, et ben, chacun fait ce qu'il peut, hein. Moi, j'ai envie de dire, donc autant essayer de s'écouter les uns les autres.
C'est peut-être
et de s'aimer les uns les autres.
Et de s'aimer les uns les autres. Alors là, vous rejoignez quelque chose qui devrait être commun à tous, oui, en effet. Merci Naïm, au revoir et
merci.
Bonne suite.
Merci infiniment pour l'invitation.
J'ai le vertige, face à l'infiniment grand. Au puits de poussière d'étoiles dont chacun de mes atomes sont les vestiges. Tous ces petits grains de firmament du confin de l'univers venus s'assembler pour qu'un jour enfin je respire.
Une belle rencontre avec Naïm Zriwel, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Internet. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube notamment, mais surtout un site, Naïm Zriwel, naimzriouel.fr. Nous continuons avec un mélange de théâtre, de chansons, une sorte de comédie musicale qui a pour nom Les Galaxies d'Alix. C'est la nouvelle pièce de la compagnie SketchUp dont nous parlent mes trois invités à Lourmarin. À la terrasse de l'Hôtel du Moulin, il y a Julie Jaffres, Yaël Chanchila et Magali Bracono. Julie est chargée de production, Yaël incarne le personnage principal, Alix. Yaël que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs au cinéma ou dans la série de télévision Demain nous appartient. Et puis il y a Magali, une autre comédienne majeure de cette pièce. Et ma première question s'adresse à Magali, justement, et elle concerne l'origine de la création des galaxies d'Alix.
C'est une commande de la fondation John Bost, en fait, pour les 150 ans de sa fête annuelle, qui a eu envie qu'il y ait un spectacle de théâtre. Parce que chaque année, il y a un spectacle, soit qui est fait par les résidents, soit qui est acheté. Et là, il y avait vraiment une envie de demander à la compagnie SketchUp, qui a une habitude de spectacle de théâtre, de travailler sur l'inclusion. Donc c'est Olivier Arnera qui a écrit le texte, qui a essayé de trouver comment parler de l'inclusion et du handicap. Et puis après, nous, on est arrivés avec des propos qui étaient peut-être un peu différents, et c'est un texte qu'on a remanié, qu'on a réfléchi ensemble.
Qui s'est construit petit à petit.
Voilà. Et avec Yaël, ça a été vraiment super de pouvoir parler de ce que c'est que le quotidien, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire le handicap dans la société d'aujourd'hui? Ben, nous, qui marchons à deux pattes, comme elle dit.
Les bipèdes.
Les bipèdes, elle nous appelle les bipèdes. Il y a des choses qu'on ne ressent pas de l'intérieur, quoi. Donc,
oui,
ça a été vraiment, on a éprouvé cette écriture à travers ce travail-là.
Julie, une forme de résidence, en quelque sorte, qui s'est faite aussi là-bas à John Bost.
La compagnie SketchUp qui existe depuis plus de 40 ans maintenant,
ouais,
c'est pas rien, a joué son précédent spectacle Écolo Swing à Bergerac. Et c'est à ce moment-là qu'une discussion entre le directeur général de la fondation, donc Guillaume de Clermont, et Olivier a débuté. Donc il y a
Bergerac, c'est juste à côté de la force.
C'est ça.
Et la force, c'est le lieu de la fondation John Bost.
Tout à fait.
Même si cette fondation est implantée maintenant un peu partout en France, c'est le lieu majeur et historique de cette fondation. On peut le dire aussi, une fondation qui accueille alors plus de 2000 résidents, je crois.
Oui. Et suite à cette commande d'écriture, et donc il y a eu une résidence de création. Donc on a passé un mois au cœur de la fondation de ce site-là avec toute l'équipe. À créer cette forme-là avec les résidents qui passaient nous voir et notamment tout un travail, parce que c'est un spectacle qui est théâtral et musical, un projet de participation de la chorale de la Fondation d'aidants et de résidents qui ont été au plateau avec vous pour la première, qui chantaient. Donc voilà, on était vraiment au cœur de la Fondation dans ce travail-là.
Et même pour les répétitions, ils venaient nous voir jouer, c'était d'autant plus fort de jouer cette pièce devant eux, parce que les galaxies d'Alix, ça parle essentiellement d'Alix qui part de la Fondation pour aller vivre dans le monde ordinaire. Donc le monde ordinaire, c'est là où on vit actuellement, c'est en dehors des institutions.
Yaël, vous incarnez donc ce personnage qui, en effet, est une jeune femme d'une vingtaine d'années à peu près.
Oui, 20
votre
ans.
Votre âge
Moi, j'ai 25 ans. Olivier, je crois qu'il a décidé qu'elle avait 20 ans.
Oui.
Voilà. Mais bon, c'est bien de rajeunir un peu parfois, comme ça, déjà.
50 plus, 50 moins,
ça
ne
change
pas
grand-chose. et cette jeune femme se déplace donc avec un fauteuil roulant et elle décide un jour de quitter l'institution pour tenter de vivre dans la cité.
Une nouvelle vie commence avec toutes les difficultés et voilà, il y a une espèce de fantasme sur le monde ordinaire. Est-ce qu'elle va pouvoir être comme les autres? Est-ce qu'elle va pouvoir être libre, autonome? Et toutes les difficultés rencontrées.
C'est un rôle très proche de votre vécu finalement, dans votre réalité au quotidien.
Je pense que n'importe qui a un handicap, il ou elle peut se reconnaître, parce que finalement c'est toujours la même chose. C'est toujours une personne discriminée dans un monde discriminant. Mmh. Donc chaque personne qui a déjà vécu ça peut se reconnaître en Alix.
Elle n'est absolument rien contre les personnes dans votre état. J'ai moi-même une belle-sœur qui est en béquille. Et je ne lui ai jamais fait la moindre remarque. C'est bien la preuve que j'ai conscience de vos difficultés.
Et votre belle-sœur, si elle voulait monter, refuseriez alors de la transporter?
L'autre problème, madame, c'est la technique. La rampe qu'ils m'ont installée, elle marche une fois sur deux. Tenez, venez voir. Mais là, ça marche, je comprends pas. Écoutez, vous devez peut-être m'impressionner avec votre belle tenue.
Encore un effort à faire pour qu'on se calcule un peu mieux. Ce n'est pas parce qu'on diffère.
Alix, elle est toute enthousiaste en disant, enfin, elle fantasme un peu ce monde et elle va se retrouver confrontée à des obstacles. Ben, je trouve que le vécu de Yaël a beaucoup nourri en fait son personnage. Elle nous a parlé de ce que ça voulait dire que de vivre dans cette société qui empêche beaucoup. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand on a parlé de handicap ensemble, c'est de dire, mais moi finalement, c'est la société qui me handicape. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, quoi. Et tout ça, ça nourrit notre réflexion. Et c'est ça qu'on a ajouté au texte, en fait.
Alors, je le soulignais, Yaël, vous incarnez aussi un autre personnage à la télé, Mia, Demain nous appartient. L'accessibilité et la visibilité pour les comédiennes et comédiens handicapés, je reprends votre terminologie, ça se passe comment?
C'est très compliqué. Il y a un terme que je vais très mal prononcer parce que je ne parle pas très bien anglais, mais ça s'appelle le creeping up. C'est le fait d'employer des personnes valides
pour jouer le rôle de
personnes handicapées, exactement. Les personnages principaux, c'est toujours des personnes valides, et des fois, pour les personnages secondaires, on prend des personnes handicapées, voilà. Histoire de. Et surtout, quand un artiste handicapé est employé pour jouer un rôle d'un personnage handicapé, la grande difficulté, c'est que c'est toujours les mêmes types de personnages. Parce qu'on n'imagine pas qu'une personne handicapée peut aimer. On n'imagine pas qu'une personne handicapée peut jouer une scène qui ne parle pas de handicap.
Et oui. Magali, la fondation John Bost est une œuvre protestante.
Oui.
Nous sommes dans ce festival dans une sorte de doux équilibre entre engagement et expression spirituelle et laïque.
Alors je pense qu'Olivier a voulu que ce soit présent. Ça peut ne pas se voir, ça peut être des valeurs universelles, des valeurs d'amour et d'acceptation de l'autre. Je pense qu'Olivier, lui a profondément mis ses convictions dans sa foi. Oui.
Pour conclure le temps du café, si chacun de vous devait offrir un mot, une image, une phrase, une tirade que vous déposeriez dans la tasse de café de nos auditeurs. Allez, Yael.
Vos corps valides sont éphémères. Je ne connais pas l'autrice ou l'auteur, mais vous pouvez retrouver cette phrase chez le collectif des dévalideuses.
Merci Yael. Magali.
Moi, c'est vraiment une expérience que je trouve très touchante et pleine d'espérance. Moi, c'est ça que je mets au cœur de ce spectacle. Et puis, des très belles rencontres. Moi, je suis ravie de faire ce duo avec Yael. C'est une belle histoire d'amitié aussi.
Et Julie ?
Pour conclure toute cette discussion, je dirais simplement regard, parce que c'est ce qu'on a voulu faire dans ce spectacle, aussi bien de changer le regard, les regards sur le handicap, mais simplement aussi de regarder les autres et de comprendre leurs besoins, ou du moins leur demander leurs besoins aussi. Mais pour ça, il faut regarder les gens.
Voici donc la loi générale, radicale et révolutionnaire pour l'inclusion totale et entière de toute personne en situation de handicap. Il s'agit de la LGRR. De la LGRR. Vous ne m'avez pas aidé sur ce coup-là. Hein.
C'est la LG2RITETSH.
LG2RITETPSH.
Oui.
Voilà. Article 1. À partir de désormais, l'inclusion n'est plus une option. C'est un devoir sacré que nous allons sanctuariser. Sanctuariser. C'est difficile à prononcer, mais ça fait son effet. Hein. Nous sanctuarisons. C'est beau.
Oui.
Et en plus, ça ne coûtera pas un bras. Voilà, article 2.
Les Galaxies d'Alix, nouvelle création de la compagnie SketchUp, présentée cet été à Lourmarin au Festival des Arts de la Parole.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Vincent Abouchard et avec Stéphane Touvenin à la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site protestantpluriel.org à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin, sur France 2, à 10h, dans Présence protestante, rediffusion d'un documentaire de Chris Hubie, protestant du Mozambique, bâtisseur de paix. Mais pour le moment, sur France Culture, l'émission talmudique qui vous est présentée par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e et dernière proposition de cette série où nous entendrons le comédien Laurent Suir, les artistes de gospel Marilène Olivier et Élisée Nguimout et plusieurs chanteuses du collectif Éclosion 13 qui rendaient hommage à Anne Sylvestre. Et moi, eh bien, je vous souhaite un très très bon dimanche à chacune et chacun.
Allons sur l'autre bord.